Ce matin, au Radio Journal, scène d'horreur aux États-Unis, un navire percute un pont et le pont s'effondre en quelques secondes.
This is a unthinkable tragedy.
Le temps presse pour les secouristes. L'évacuation de ressortissants canadiens coincés en Haïti suspendue à cause de la météo. Et ces jours de budget en Ontario, le premier ministre promet de ne pas augmenter les impôts. Bonjour mesdames, messieurs, ici Nadim Mobarak.
The preliminary investigation points to an accident.
Le gouverneur du Maryland, Wes Moore, affirme que l'effondrement d'un pont à Baltimore est dû à un accident selon les premiers éléments de l'enquête. Le FBI a lui aussi déclaré que cette tragédie n'est pas liée à un acte de terrorisme. La structure s'est effondrée en quelques secondes seulement après avoir été percutée par un porte-conteneur. Une personne a succombé à ses blessures à l'hôpital et 6 autres sont portés disparus. Des bateaux de la garde côtière, des drones, des hélicoptères et des plongeurs sont à leur recherche. Toujours à l'étranger, les raids israéliens sur la bande de Gaza se poursuivent malgré l'appel de l'ONU à un cessez-le-feu immédiat. Pour la première fois, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté hier une résolution qui exige la fin des combats grâce à l'abstention des États-Unis, ce qui a d'ailleurs déclenché la colère du gouvernement israélien. Voici le reportage de Thibault Lefebvre.
La colère israélienne a étonné les Américains. Selon plusieurs diplomates, le gouvernement Netanyahou était informé de la volonté des États-Unis de ne pas opposer de veto au projet de résolution pour un cessez-le-feu à Gaza. Il n'y aurait donc pas eu de surprise, mais une réaction forte, calculée, qui répondrait à des considérations de politique intérieure. Déjà la semaine dernière, Benjamin Netanyahou avait appelé ses députés à rester soudés contre Joe Biden et sa volonté de freiner l'offensive israélienne sur Rafah. La question, c'est désormais de savoir combien de temps le Premier ministre va pouvoir brandir l'épouvantail américain pour maintenir l'unité de sa coalition, au risque de perdre une alliance indispensable à la sécurité du territoire israélien. Les États-Unis ont joué hier la carte de l'apaisement. Ils ont fait savoir, par une communication du Département d'État, qu'Israël respectait le droit international, que ce soit dans sa conduite de la guerre ou la livraison d'aide humanitaire. Et la Maison-Blanche a assuré que l'abstention américaine n'était pas un changement de cap.
C'était Thibault Lefebvre à Jérusalem. La haute cour de Londres a tranché. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, peut faire appel de son extradition aux États-Unis. Le tribunal a ordonné la tenue d'une nouvelle audience en mai pour évaluer les engagements de Washington. La justice américaine devra notamment garantir qu'il ne risque pas d'être condamné à la peine de mort. Julian Assange fait face à des accusations d'espionnage après avoir publié des centaines de milliers de documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques, en particulier en Irak et en Afghanistan. Les ressortissants canadiens qui souhaitent quitter Haïti au plus vite en raison du chaos qui règne dans ce pays devront encore patienter. L'évacuation annoncée hier a finalement été suspendue. Jean-Philippe Robillard a plus de détails.
Alors, les vols qui devaient partir hier ont été reportés. Ils vont reprendre dès que la météo va le permettre. Il y a une trentaine de ressortissants canadiens qui seront évacués. Hier, il y en a 18 qui devaient partir, ceux qu'on estime les plus vulnérables. Alors, le gouvernement canadien va les rapatrier par hélicoptère. C'est un court vol vers la République dominicaine parce que l'aéroport de Port-au-Prince, qui est le plus important d'Haïti, est fermé. Et par la suite, ces ressortissants vont pouvoir rentrer au Canada par un vol commercial, mais à leurs frais. André-François Giroux est l'ambassadeur du Canada en Haïti.
Il n'y a pas vraiment de porte de sortie quand on est à Port-au-Prince, parce que l'évacuation par ou la sortie par la route est jugée aussi trop dangereuse, parce qu'on tombe dans des territoires contrôlés par les gangs aussi. Donc, il reste essentiellement les compagnies d'hélicoptères privées, et c'est très compliqué. Donc, pour un individu, un citoyen, d'organiser ça lui-même, c'est impossible. Il faut des autorisations gouvernementales.
Ottawa a également dépêché du personnel sur place, sur le terrain, pour aider ceux qui en ont besoin. Actuellement, il y aurait environ 3 000 ressortissants canadiens en Haïti. Ottawa qui a finalement décidé de lancer cette opération d'évacuation parce que la situation sécuritaire a continué de se détériorer en Haïti. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal.
Le nouveau régime canadien d'assurance dentaire qui commencera à couvrir ses premiers rendez-vous à compter du mois de mai suscite à la fois de l'engouement et de la confusion. Plus d'un million de Canadiens se sont inscrits au programme, mais des questions demeurent, notamment au sujet de la part des factures qui devraient être assumées par les patients. Valérie Gamache a préparé ce qui suit.
Il y a 75 % de moins.
Depuis qu'Ottawa a annoncé son programme d'assurance dentaire, la salle d'attente de la denturologiste Lynn Gaudreau est bien plus souvent qu'autrement vide.
Les gens reportent tous leurs rendez-vous.
À l'inverse, elle s'attend à crouler sous la demande à partir du mois de mai, soit au moment où les frais seront remboursés. Les besoins sont grands, dit le président de l'Ordre des denturologistes, Raymond Lagacé.
Au Québec, c'est la province la plus édentée à la grandeur du Canada, là. Fait qu'il y a un besoin réel dans la prothèse.
Bonjour, bonjour. Je venais vous parler des soins dentaires.
Le député néo-démocrate Alexandre Boulris a entrepris la tournée des résidences pour personnes âgées de sa circonscription pour s'assurer de faire connaître le programme.
On va en parler, justement, des prothèses.
Et il y a visiblement de l'appétit.
Moi, ça fait au moins 4-5 ans que je la porte plus, celle du bas. Maintenant, elle est trop grande.
Jules Plourde a 82 ans. Il est déjà inscrit.
Parce que faire des prothèses, c'est au minimum, c'est 3 000. Et ça, on les a pas tous, les sous.
Mais il devra piger quand même dans son bas de laine. Les honoraires remboursés par le gouvernement sont souvent beaucoup moins élevés que la grille tarifaire des denturologistes. Et Ottawa leur permet de charger la différence aux patients. Le ministre Jean-Yves Duclos reconnaît que bien des détails restent à attacher.
Mais il y a des questions naturelles que les fournisseurs se posent.
Et c'est Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa.
En Ontario, Doug Ford cherche à se faire rassurant à quelques heures du dépôt de son budget. Le premier ministre a laissé entendre qu'il proposera de nouveaux allègements pour les automobilistes. Les partis d'opposition craignent cependant que le gouvernement ne s'attaque pas suffisamment à l'augmentation du coût de la vie et que les Ontariens les plus démunis soient laissés pour compte. Les précisions de Camille Grirois.
Le premier ministre promet de ne pas augmenter les impôts. La priorité de Doug Ford, remettre de l'argent dans les poches des Ontariens et continuer à stimuler la croissance économique. Les progressistes conservateurs ont déjà annoncé un fait saillant de leur budget. La réduction de la taxe provinciale sur l'essence sera prolongée jusqu'à la fin de l'année. La mesure doit permettre à un ménage moyen d'économiser près de 130 $ annuellement. Mais ce rabais à la pompe n'aide pas à rendre la vie beaucoup plus abordable, estime le député libéral Ted Chou.
Il y a un marché pour le prix de l'essence. Donc, une réduction de taxes, ça bénéficie aussi les producteurs de l'essence. Ils peuvent monter le prix.
Pour le chef du Parti vert, si la province veut vraiment aider la population à se déplacer à moindre coût,
si ce gouvernement veut aider les gens à se déplacer à la province à moindre coût, ils vont investir plus dans le transit.
Elle doit investir davantage dans les transports en commun, dans la fiabilité du réseau. Et si le gouvernement veut aider les Ontariens à épargner, pourquoi ne pas proposer des incitatifs éco-énergétiques, ajoute Mike Schreiner. Le NPD espère enfin voir des investissements significatifs dans les services publics dans ce budget. En santé, en éducation et des cibles ambitieuses pour le logement abordable. Ici Camille Grirois, Radio-Canada, Toronto.
Et en terminant, le spectre d'une sécheresse prolongée plane sur l'Alberta, où les réserves d'eau dans le sud de la province sont à des niveaux anormalement bas. Des municipalités revoient déjà leur façon de s'approvisionner en eau potable et les agriculteurs sont sur le qui-vive avant même d'avoir ensemencé leurs champs. Voici le reportage d'Anne Levasseur.
Depuis des mois, au centre d'une large vallée d'argile et de boue, un mince filet d'eau ruisselle timidement, là où la rivière Crow's Nest coule normalement à flot. Le préfet du district municipal de Pincher Creek a rarement vu ça. Depuis le mois d'août, David Cox explique que le niveau de la rivière est si bas que la prise d'eau du district ne sert plus à rien. La rivière Crow's Nest est un affluent du réservoir Old Man, un des plus grands du sud de l'Alberta. Selon les données récentes du gouvernement provincial, son niveau est deux fois plus bas que la normale à cette période de l'année.
It's kind of a wake-up call.
C'est un signal d'alarme qu'on ne peut ignorer, dit le préfet. Partout dans le sud de l'Alberta, l'état des réserves d'eau inquiète. Les récoltes de Ryan Selk dépendent de sa capacité à irriguer ses terres. Mais pour irriguer, il faut de l'eau, beaucoup d'eau.
And it makes quite a difference in your yields.
Selon les données du gouvernement de l'Alberta, près de 45 % des ressources d'eau disponibles de la province sont allouées à l'irrigation. Or, pour répondre à la demande, il aurait fallu que les rocheuses reçoivent des précipitations de neige bien au-delà de la normale tout au long de l'hiver. John Pomeroy, spécialiste de l'eau à l'Université de la Saskatchewan. Le chercheur estime qu'une autre année de sécheresse sévère semble pratiquement inévitable dans les prairies. C'est l'occasion de s'entraîner, dit-il, en vue de ce qui pourrait bien être la nouvelle réalité de l'Alberta dans un futur rapproché. Ici Anne Levasseur, Radio-Canada, dans le district de Pincher Creek.